Jacques 3, verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bon fruit, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas, vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie? Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfouira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain, car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur, paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos ventries. Toute jactance pareille est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Jusqu'ici.
D'abord, un moment pour ceux qui voudront se lever, de ne pas se mettre trop près des micros. Il y en a trois, donc comme ça, ça permettra de se faire comprendre par tous dans la salle. Quelques mots simplement pour nous rappeler ce que nous avions entamé dans ce chapitre 3 précédemment au mois de mars. Et nous avons ce sujet du nombre de docteurs, cette humilité que nous avons pour présenter la parole, d'être devant Dieu d'abord quant à ce que nous sommes pour pouvoir enseigner les autres. Et aussi, il nous est dit que nous faillissons tous à plusieurs égards. Nous devons toujours avoir cette pensée que, en effet, même si il nous est dit que celui qui ne faillit pas en parole est un homme parfait, nous sentons combien nous sommes loin de cette perfection. Et donc, voilà cet enseignement pour nous donner ces pensées que nous avons déjà vues d'ailleurs au chapitre premier, lorsqu'il nous était dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Alors il y a des exemples qui nous sont donnés, comme le mort qu'il y a dans la bouche des chevaux. Il y a aussi ce gouvernail sur ces navires. Et nous avons donc ce membre dont il est parlé beaucoup dans ce premier paragraphe, la langue, qui peut donner des choses très bonnes, mais qui peut aussi exprimer des choses très mauvaises. Et nous devons prendre garde aussi à tout ce qui sort de notre bouche pour être aussi un exemple, pour être un reflet de ce que Dieu lui-même est au milieu de nous. Alors, il y a d'autres exemples qui nous sont donnés vis-à-vis des animaux. Et en effet, il y a aussi cette fontaine où il est dit qu'elle peut faire jaillir par une même ouverture le doux et la mer. Et donc, voilà, il faut prendre garde à toutes les expressions que nous pouvons donner l'un vis-à-vis de l'autre, surtout dans la présence du Seigneur en assemblée, mais aussi dans notre vie de chaque jour, pour refléter notre foi, pour refléter ce que le Seigneur a donné à chacun en nous-mêmes. Alors, il y a peut-être encore quelques réflexions, si les frères le veulent, dans les versets 10 à 12, qu'on n'a peut-être pas abordé pleinement. Et nous recommençons donc l'étude au verset 13. Il est là parlé de cette bonne conduite qui montre les œuvres. Ces œuvres qui étaient déjà présentées dans le chapitre 2 du verset 14 à la fin. « Montre-moi tes œuvres. » Voilà, que le Seigneur nous donne de bons moments de méditation de cette parole pour nous encourager et pour nous fortifier.
Donc, versets 11 et 12, nous avons été exhortés à être cette source douce. C'est le Seigneur qui peut produire ce travail dans nos cœurs. Cette source douce qui soutient la vie en apportant le rafraîchissement que la fontaine permet, en apportant la nourriture que le figuier permet, qui est une image de la nourriture du croyant, et puis en apportant aussi l'étanchement de la soif, comme la vigne et les produits de la vigne le permet. Que le Seigneur nous donne d'être cette nourriture, cette source douce que le Seigneur attend des siens, apportant tout à la fois, comme on vient de le remarquer, apportant tout à la fois le rafraîchissement, combien nous en avons besoin dans un monde difficile, soumis à des épreuves quelquefois lourdes, difficiles, combien nous avons besoin de ces rafraîchissements. Leur source est bien sûr le Seigneur lui-même. Et nous avons besoin aussi de cette nourriture, le figuier étant dans la parole une image de ce qui nourrit les âmes, ce qui nourrit les croyants. Eh bien, nous avons besoin de cette nourriture qui pourra répondre justement à nous encourager à approfondir la parole et qui pourra répondre à des besoins que nous n'avons pas eu de réponse ou de source. Eh bien, cette nourriture nous aidera à faire face à ces difficultés-là. Et puis, nous avons besoin aussi de l'étanchement de la soif. Dans un monde dur, dans un monde où les épreuves et les difficultés sont nombreuses, combien nous avons soif. Soif d'être rafraîchis par la parole, soif d'être étanché, d'avoir ce besoin étanché par la parole. Que le Seigneur nous donne d'essayer de le réaliser davantage dans notre vie. Que cette parole soit, cette parole dont nous avons chanté les gloires dans notre cantique, que cette parole soit une parole implantée. Le grand danger, avec les études que nous pouvons faire, pour des raisons professionnelles, le grand danger, c'est d'avoir une parole qui s'implante dans notre cerveau, dans notre intelligence, ou dans une simple connaissance. Que le Seigneur nous accorde que cette parole soit implantée dans notre cœur, qu'elle joue un rôle capital dans notre vie. C'est la raison pour laquelle elle nous a été donnée, comme aussi pour nous amener à la connaissance du salut par grâce, bien sûr. Que le Seigneur bénisse ces moments qu'il nous accorde dans cet esprit-là, dans cet esprit de cette parole douce et de cette parole qui répond aux besoins des âmes.
En effet, ce que nous avons dans les versets 9 à 12 qui vont ensemble, c'est deux sources, les deux aussi produits qui sont produits dans nos vies, dans nos cœurs en fait. C'est totalement en contradiction à ce que nous trouvons dans la nature. Dans la nature, création, la source est bonne et l'eau est bonne. Ou la source est faux et les produits sont faux. C'est en fait aussi ce que le Seigneur lui-même a enseigné, Matthieu 7. Il y a des bons, des arbres bons ou des arbres mauvais. Mais il n'y a pas le mélange. Mais on voit bien que dans nos vies, ça peut être différent. Et le premier des apôtres, des douze, Pierre, le montre en effet, n'est-ce pas? Dans Matthieu 16, où il était l'instrument de la révélation du Père, de Dieu le Père, où le Pierre a dit, c'est Matthieu 16, verset 16, « Et Simon-Pierre, répondant à cette question du Seigneur, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondant, lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il était le canal, l'instrument des expressions qui n'étaient pas encore révélées jusqu'à ce temps que Christ est homme et Dieu dans une personne. Pas seulement le Christ, mais qu'il est, même comme homme ici sur la terre, qu'il est, comme il est ici, dit ici, le Fils du Dieu vivant. Mais seulement un petit peu plus tard, quand le Seigneur, à partir du verset 21, a parlé sur ses souffrances, nous lisons verset 22, « Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, le Seigneur, se retournant, dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ça nous montre que Pierre, probablement, courtement, après qu'il était l'instrument de cette source d'eau vraie, il était, je ne dis même pas l'instrument direct de Satan, mais au moins, il a accompli des expressions, il a accompli une œuvre qui était normalement une œuvre de Satan. Et ça peut nous arriver, nous aussi. Est-ce que nous comprenons la question, est-ce que nous sommes vraiment près de cette source que nous avons entendue déjà, la parole de Dieu, la personne de notre Seigneur, pour vraiment pour être des instruments qui parlent avec sagesse? Est-ce que c'est le doux ou la mer qui vient de nos bouches? On voit aussi dans Jérémie, n'est-ce pas, dans le beau et solennel chapitre 17. Premièrement, Dieu, par Jérémie, il parle de cet homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il entendra des racines vers le courant. Tout à fait ce que nous avons entendu au début. Et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas et ne cessera de porter du fruit. Et tout de suite après, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Et qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je réprouve les reins. Alors ça nous montre que ces deux choses peuvent être produites de nos cœurs. Parce que d'un côté, nous avons un cœur qui était purifié. Et d'autre côté, nous avons encore une nature de péché en nous. Et nous, comme personne, comme croyants, nous sommes responsables sur ce qu'il est produit de nos cœurs et par nos bouches, par la langue, en fait. Et il y avait, j'ai lu ce récit, il y avait un noble qui a demandé à son serviteur, qui était responsable pour les repas, de faire une soirée. Il a demandé de faire ce qu'il est le plus doux. Et ce serviteur a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Il a fait une langue de bœuf. Il a dit, c'est le mieux, c'est le plus doux, la langue. Par ses pensées, avec la langue, on peut glorifier Dieu. C'était un croyant. Le jour après, ce noble a demandé, mais maintenant, fais-moi ce qu'il est le pire. Et ce serviteur a réfléchi encore une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Une langue de bœuf. Pour montrer que la langue peut être le mieux pour glorifier, pour louer, pour adorer Dieu. Et en même temps, ça peut être le pire, comme il est dit ici. Ça veut dire, Dieu nous a donné un instrument dans notre vie, dans notre corps, en fait, avec lequel on peut produire, on peut accomplir des choses magnifiques, mais en même temps aussi des choses qui sont très, très mauvaises, n'est-ce pas? Nous savons, nous sommes tous aussi des résultats, des blessures des autres par la langue. Et si j'ai reçu des blessures par d'autres, je suis très clair et très sûr que j'ai produit moi-même des blessures dans la vie des autres, pour des autres. Alors, ces versets 9 à 12, nous montrons vraiment la responsabilité que nous avons. Demain, c'est le dimanche. On va être rassemblés pour adorer le Seigneur. Et qu'est-ce que j'avais fait avec cette langue avec laquelle je vais glorifier Dieu le Père, le Seigneur demain? Qu'est-ce que j'avais fait avec cela, cette langue, ce soir, demain matin, toute la semaine? Le Seigneur ne veut pas que nous nous taisons, il aime que nous sommes là pour vraiment dire des expressions d'adoration, mais il faut être en même temps, il faut être clair vis-à-vis de nous-mêmes, que par une langue qui n'est pas pure, qui n'est pas purifiée pratiquement, on ne peut pas adorer le Seigneur, on ne peut pas adorer Dieu.
Quelques exemples pratiques concernant ces versets de 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. On peut venir au culte, passer un moment de louange, d'adoration, et puis on peut sortir et avoir des propos racistes envers des Arabes, des Africains. Et on est parfois étonné de voir des chrétiens qui tiennent de tels propos. Et nous devons faire attention nous-mêmes, ne pas avoir de tels propos. De la même bouche procèdent la bénédiction et la malédiction. On peut vouloir du bien pour certains frères et sœurs, et puis on en veut terriblement à ceux qui nous ont fait du tort, à nos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du tort. Et voilà, une même personne, et cela peut être chacun d'entre nous, peut avoir ces deux aspects. Il y a un moment donné où, eh bien, on s'occupe des choses de Dieu, et juste après, on a des attitudes qui ne sont pas à sa gloire. Une fontaine fera-t-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer ? Là encore, on peut avoir le dimanche de belles paroles et en semaine avoir tout à fait d'autres paroles. Et il ne faut pas regarder chez notre voisin, n'est-ce pas trop souvent le cas chez moi. Et puis, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne ou des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Eh bien, si nous marchons par l'esprit, avec notre nouvelle nature, alors nous ne pourrons pas, en effet, avoir ces deux attitudes-là. C'est lorsque nous laissons la chair agir que le Seigneur nous donne de faire des progrès dans ces domaines-là.
J'aimerais ajouter un aspect de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pierre, dans l'exemple de Pierre, le Seigneur lui a reproché d'avoir parlé la deuxième fois. On pourrait dire pourtant Pierre n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait défendre les intérêts du Seigneur. Il est donc possible de ne pas parler avec sagesse en voulant défendre les intérêts du Seigneur. Et donc ici, il est dit au verset 13, « Qui est sage et intelligent ?» Donc ce n'est pas seulement le cas où on dit du mal des autres. Parfois, en voulant défendre la vérité, en voulant défendre les Écritures, en voulant défendre le Seigneur, il est possible que nous manquions de sagesse et d'intelligence.
Jacques nous rappelle toujours ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Deux fois ici, au verset 10, au verset 12, « Mes frères, qui sont les frères, ceux qui ont été engendrés par la parole de la vérité, ceux qui ont reçu cette vie nouvelle, cette vie divine, eh bien oui, si les fruits ne correspondent pas à cette vie, il ne devrait pas en être ainsi. » Et puis, au verset 13, « Qui est sage et intelligent parmi vous, par nature, nous étions insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés. Et là encore, par grâce, nous avons reçu cette vie et cette sagesse, nous avons reçu le Seigneur Jésus, qui est la sagesse de Dieu. Eh bien, est-ce que cette sagesse, est-ce que nous allons la vivre, la réaliser ? Est-ce qu'elle va produire son fruit dans nos vies ? Est-ce qu'elle va le produire à travers les œuvres ? La foi se manifeste par des œuvres, la sagesse se manifeste aussi dans la façon dont nos œuvres sont accomplies.
Nous comprenons bien que si nous sommes invités à être des sources de douceur, comme le voyons dans ce passage, cela veut dire aussi que nous devons veiller dans nos paroles à avoir une prudence et une sagesse. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons rien à dire concernant des situations difficiles ou des épreuves particulières, mais nous devons veiller à ne pas avoir une langue pointue, manifester une supériorité, par exemple, être un peu ostentatoire, se mettre en évidence, que nous sachions nous approcher les uns des autres comme ayant ce caractère de ces sources, n'est-ce pas ? Le figuier qui nourrit l'âme, et puis la fontaine qui la rafraîchit, et puis le troisième point, c'est donc, la troisième, c'est la vigne qui étanche la soif. Quand nous nous approchons de nos frères, est-ce que nous avons une approche neutre, sans nous intéresser à eux, sans essayer de connaître leurs circonstances, discerner par le Saint-Esprit qui nous sera donné, de discerner leurs besoins, de discerner leurs états d'âme? Trop souvent, nous sommes neutres, où nous nous mettons en avant. Le Seigneur nous donne de réaliser qu'il attend de nous d'être ce que lui-même a été. Il est remarquable de voir, nous n'avons pas le moyen et le temps de développer cela, mais quand nous voyons le Seigneur agir, nous voyons avec quelle douceur il s'approche, avec quelle doigté il s'approche des âmes qui souffrent. Il les prend par la main, il les nourrit, il s'occupe de leur situation. Que le Seigneur donne d'avoir ce caractère, plutôt qu'un caractère sûr de soi, un peu ostentatoire, qui cherche à se mettre en avant.
Dans les versets 13 à 18, maintenant, Jacques parle de la sagesse. Et comme toujours, il prend le côté pratique. Comme déjà dans le chapitre 2, où c'était la question de la foi, ce n'était pas la foi comme justification devant Dieu, mais les œuvres de foi comme justification devant des hommes. Ici, la sagesse est regardée par les œuvres, encore une fois. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite et montre ses œuvres avec la douceur, encore une fois, de la sagesse. Alors, elle montre que la sagesse peut être vue. Mes frères, et même, on voit plus tard, les personnes qui nous environnent, le monde, peut voir s'il y a vraiment une sagesse dans nous, une sagesse de Dieu, ou une sagesse terrestre et même satanique. Alors, quelle est la source, pour ainsi dire, d'une intelligence et sagesse qui est d'après Dieu? Et je crois que Jacques, même s'il ne mentionne pas directement, il pense à des pensées, à des versets dans l'Ancien Testament où Dieu a déjà parlé de la sagesse et de l'intelligence. Je crois que dans le Nouveau Testament, c'est plus ou moins unique que les deux expressions vont ensemble, sagesse et intelligence. Mais dans l'Ancien Testament, on a plusieurs occasions où Dieu a parlé de ces deux mots. Je prends deux ou trois. Et je commence par psaume 107. C'est le psaume qui parle particulièrement sur le temps de ce résidu dans l'avenir, où il va endurer des voix de Dieu sur eux comme descendants d'Israël qui ont crucifié Dieu, le Seigneur. Et après enseigner toutes ces voix de Dieu sur eux, le psalmiste dit dans le dernier verset, « Qui est sage prendra garde à ces choses et comprendra les bontés de l'Éternel. » Ça veut dire la sagesse et la compréhension, l'intelligence, et d'un côté au moins, c'est le résultat de regarder vers les voies de Dieu vis-à-vis les siens, son peuple terrestre, comme avec nous. C'est un petit peu la même chose qu'on voit aussi dans le prophète Osée. Et encore une fois, c'est le tout dernier verset de ce prophète, chapitre 14, verset 9, où Dieu pose la même question. Qui est sage? Osée 14, verset 9. Qui est sage? Il comprendra ces choses et intelligent et les connaîtra, car les voies de l'Éternel sont droites. Et les justes y marcheront, mais les transgresseurs y tomberont. Dans ces deux occasions que j'ai mentionnées maintenant, c'est toujours à la fin. Parce qu'avant d'agir sage et intelligent, il faut premièrement écouter et regarder. Et pas sur ce que je fais ou que les hommes font. Mais sur ce que Dieu fait, comment il gouverne l'homme, comment il gouverne, il règne sur aussi son peuple, aussi aujourd'hui, sur son peuple céleste. Et par ses voies de Dieu, par son enseignement, on est capable d'avoir cette sagesse. Et si nous pensons encore une fois à la source, ça veut dire la, pour nous, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? On le voit dans Deutéronome chapitre 6, où Dieu, encore une fois, dit par Moïse, Deutéronome 4, verset 6, je crois. Oui, verset 5, « Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder, et vous les garderez et les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous les statuts et diront « Quel peuple sage et intelligent que cette grande nation !» Le problème, c'était que le peuple n'était pas sage et intelligent, parce qu'il n'était pas obéissant. C'est un peu le miroir de nous, n'est-ce pas? Normalement, les nations qui nous entourent, le monde, doit dire « Quel peuple sage et intelligent !» Mais parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole, parce que la parole de Dieu n'a pas cette place centrale dans notre vie, il nous manque souvent cette sagesse et intelligence. Intelligence veut dire, je crois, particulièrement la compréhension de la parole. Et la sagesse, c'est l'application de cette parole sur nos actions, sur notre vie. Et nous avons besoin des deux, cette intelligence et aussi cette sagesse. Et quelle est la source de mes actions, de ma vie? Est-ce que c'est mes propres pensées? Est-ce que c'est les philosophies, la théologie de cette terre? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu et les voies de Dieu? C'est la question qui se pose pour moi et pour nous.
Qui est sage et intelligent parmi vous? Verset dans le livre de Job, au chapitre 28. Job 28, verset 12. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et où est le lieu de l'intelligence? Aucun mortel n'en connaît le prix. Et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Et puis on en arrive au verset 28, et il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. » Voilà, si nous craignons Dieu, si nous craignons de lui déplaire, et si nous nous retirons du mal, eh bien voilà la sagesse et l'intelligence. Et dans notre verset, il est dit que par une bonne donc qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Il n'est pas dit qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il s'asseye et qu'il enseigne les autres. C'est ce qu'on aurait peut-être tendance à se dire, voilà quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, et bien voilà, c'est le but, c'est d'enseigner les autres. Bien sûr que c'est un des buts, mais on voit ici que, eh bien non, on parle tout de suite de pratique. On l'a déjà dit, cette sagesse, cette intelligence, eh bien il faut maintenant la montrer dans la pratique, pas seulement par des paroles. C'est facile par des paroles, mais combien c'est plus difficile de mettre ces choses en pratique, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres. Et on l'a dit avec la douceur de la sagesse. Ah, cette douceur que nous avons à manifester dans notre vie vis-à-vis des autres, combien elle est bien difficile. Et parfois, je pense à ce qu'il est dit de Moïse, que c'était l'homme le plus doux de la terre, alors qu'il était confronté à un peuple sans cesse rebelle. Combien de fois le peuple n'a pas murmuré contre Moïse et contre l'Éternel ? Et pourtant, il est dit de lui que c'était l'homme le plus doux de la terre. Quel exemple nous avons devant nous. Et cette douceur, nous avons, c'est un fruit de l'esprit. Et comme cela a été dit, même dans les choses de Dieu, on a envie parfois d'intervenir avec sagesse et on oublie la douceur. On veut absolument imposer son point de vue et on le fait sans douceur. Combien nous avons à demander au Seigneur qu'il nous donne cette douceur. Ce n'est souvent pas dans notre caractère. Et pourtant, la sagesse, elle opère avec douceur.
Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre précise que Christ nous a été fait de la part de Dieu sagesse. Et effectivement, la sagesse, ce n'est pas un code de conduite ou des règles à suivre. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand on connaît le Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, ceci, on ne le fait pas, cela, on ne le fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des considérations de ce genre qui soient utiles, bien sûr. Mais ce n'est pas cela. C'est-à-dire que nous référons tout au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur ferait dans ce cas? Peut-être qu'il ne s'y mettrait pas dans un tel cas. Nous sommes quelquefois dans des cas qui sont liés à notre faiblesse. Mais le point essentiel, donc, ce n'est pas un code de conduite, mais c'est juger par le Seigneur et pour le Seigneur ce que nous avons à faire dans telles circonstances. C'est une sagesse d'en haut. C'est-à-dire que c'est là, j'écoute la voix du berger, j'écoute la voix du Seigneur, elle vient d'en haut. Elle vient de la gloire où il se trouve. Elle vient du service qu'il accomplit lui-même dans la gloire où il se trouve. Que le Seigneur nous donne de savoir entendre cette voix. Et puis, que nous est-il dit? Il nous est dit aussi qu'elle conduit à être sage quant au bien et simple quant au mal. Donc voilà deux expressions qui méritent d'être approfondies par chacun de nous. Sage quant au bien et simple quant au mal. Et enfin, le dernier point, c'est que la sagesse humaine, elle cherche à se garder du mal. Comment ? Elle cherche à se garder du mal en s'occupant du mal, en essayant de la connaissance du mal et du monde qui lui permet, pense-t-elle, à être gardée. Ce n'est pas ainsi que la sagesse divine. La sagesse divine, elle vient d'en haut, comme cela nous est indiqué, de la considération de ce que le Seigneur fait, de ce que le Seigneur a été. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette vision des choses et non pas de céder ou d'avoir l'habitude d'un code de conduite, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Sagesse, intelligence, on pourrait dire aussi se laisser enseigner par Dieu, se laisser diriger par Dieu. Et alors, il s'ensuit, c'est un résultat, une bonne conduite, une conduite noble aux yeux de Dieu. Et il est parlé de douceur. Dans ce monde actuel, la douceur est souvent vue comme une faiblesse. Ce n'est pas le cas du point de vue de Dieu. Le Seigneur Jésus, comme homme, était humble et débonnaire, humble de cœur. Il avait cette douceur en lui, il y avait cette grâce qui était répandue sur ses lèvres. Ce n'était pas une faiblesse. Il représentait la parole de Dieu, non pas seulement en parole, mais en action. En vérité. Et on voit ici, on comprend dans ce paragraphe que le comportement, la bonne conduite par ses œuvres avec la douceur de la sagesse, c'est le résultat d'un état du cœur, d'un état d'esprit. Puisque tout de suite après, il est parlé du contraste, la jalousie amère, un esprit de querelle dans vos cœurs. Donc les choses n'arrivent pas juste comme ça, sans raison. Il y a l'état intérieur de notre cœur qui est absolument crucial. Et ensuite, ça va sortir d'une façon ou l'autre, par notre bouche et par notre comportement. J'aimerais ajouter aussi que cette douceur de la part de Dieu, cette douceur divine, ce n'est pas du laisser-aller, ce n'est pas du laxisme. Le Seigneur était débonnaire, c'est-à-dire il n'insistait pas sur ses propres droits à lui. On pourrait peut-être définir comme ça la douceur, en tout cas un aspect. Ne pas insister sur ses propres droits. N'empêche que le Seigneur a toujours défendu les intérêts de Dieu et sa gloire à lui.
La douceur dans la parole, dans le Nouveau Testament, a deux directions différentes. Je crois même, premièrement, la douceur est vis-à-vis de Dieu. Comme le verset qui était mentionné dans Matthieu 11, verset 29, se déroule de la situation que les peuples autour du Seigneur n'ont pas compris, étaient même contre le Seigneur, les ennemis. Et lui, le Seigneur, a pris même cette situation des ennemis et des difficultés de la main de son Père. C'est la douceur. De ne devenir amer contre Dieu, parce que ça peut devenir aussi dans nos vies. Ça veut dire que la douceur a quelque chose à faire avec notre relation avec Dieu. Et certainement ici et dans d'autres passages, c'est plutôt le côté vis-à-vis ceux avec qui nous avons affaire, d'être doux envers nos frères et sœurs, être doux, gentil envers même les incrédules qui nous entourent. Et le Seigneur est le parfait exemple. On a mentionné aussi Moïse, certainement. Et oui, je crois que nous avons bien à apprendre sur ce côté de notre vie, d'être doux. Comme Hervé a dit, ce n'est pas un laxisme. Dieu veut absolument, le Seigneur, que nous avons une vue claire sur notre vie, sur la vie de l'Assemblée, etc. Mais c'est vrai, dans Éphésiens 4, quand il est question de, dans le verset 3, de l'unité de l'esprit, de garder cette unité, il est dit « avant l'attitude, l'esprit » par lequel il faut accomplir cela. Nous sommes appelés avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça nous montre, ce n'est pas une question où on peut penser comme ci, comme ça. Le Seigneur veut que nous avons une claire vue d'après la parole sur cette question, mais de pratiquer cela, parce que je ne peux pas garder l'unité de l'esprit juste pour moi-même. J'ai mes frères et sœurs autour de moi, localement et même ailleurs, et ensemble, il faut avoir cet esprit de douceur, de vouloir comprendre mon frère, ma sœur, de vouloir aller ensemble sur ces traces que le Seigneur nous a laissées. Et c'est la sagesse divine, la sagesse dans nous. La bonne conduite qui est montrée avec la douceur de la sagesse. La sagesse n'est pas dure. Comme nous avons déjà entendu, la sagesse ne veut pas régner, pour ainsi dire, sur d'autres, ne veut pas être difficile pour d'autres. Mais la sagesse a une face, si vous voulez, du Seigneur, où il y a la gloire divine avec cette douceur qui montre l'amour de Dieu vis-à-vis mon frère, ma sœur, et même pour ceux qui sont encore incrédules, pour les gagner. Le contraire était le cas ici, dans ceux à qui Jacques écrit, « Mais si vous avez une jalousie amère, si je me compare toujours avec l'autre personne, » Et il y a toutes sortes de comparaisons, ça peut commencer par des questions terrestres, ça peut être mon travail, les possessions, l'extérieur de la personne, ça peut être l'influence aussi dans ce monde, mais aussi l'influence dans l'assemblée. Ça peut être les dons, ça peut être les services. On peut se comparer de toutes sortes, on peut devenir jaloux vis-à-vis l'autre. Si vous avez une jalousie amère ou on a quelque chose dans son cœur contre le frère, ça existe, n'est-ce pas? Certainement ici, dans ce verset, le prototype, c'est un incrédule, mais ces points peuvent arriver même dans mon cœur, dans nos cœurs, qui nous sommes des croyants. Jalousie, un esprit de querelle. N'est-ce pas, il existe des personnes, je le dis très généralement, des personnes où on sent, ils sont toujours... ils font toujours partie des querelles. Vous savez que nous avons des enfants, et il y a ceux où on sent directement, maintenant, ça ne va pas. Les deux, s'ils sont à côté de l'autre, ça commence toujours des querelles. Et ça peut être même le cas parmi nous, comme croyants. Si ces deux frères, ces deux sœurs, Philippiens 4, sont ensemble, c'est toujours difficile. Et ce n'est pas la sagesse. Et on est même capable de se glorifier et de mentir contre la vérité. La vérité, je crois, mais je ne sais pas ce que les frères pensent, ce n'est pas ici la vérité de la parole comme doctrine. Mais on peut être injuste, on peut être pas vrai dans ses sentiments. On peut se glorifier même si ces choses sont faux et on le voit dans son cœur que c'est pas d'après la parole, mais on dit c'est juste. Il faut être contre ce frère, contre cette sœur, contre cette personne, même si c'est pas juste, pas vrai d'après les pensées de Dieu. On peut se glorifier dans des choses mauvaises. C'est notre cœur. Et Jacques ici reproche cela et nous montre que c'est le contraire de la sagesse que Dieu produit par sa parole et par l'Esprit Saint dans nos cœurs.
Jacques présente les choses toujours de façon très pratique. Il y a nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? C'est la question. Si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, donc c'est un problème. Une question, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? L'apôtre Paul nous donnera d'autres aspects en nous disant que l'Esprit Saint est versé dans nos cœurs, par exemple, que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'apôtre nous dira que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc Paul va nous présenter cet aspect-là, ce qui va remplir notre cœur. Mais Jacques nous amène ici simplement à regarder ce qu'est notre conduite et ce que sont les sources de notre conduite. Il nous dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Bien, ce qu'il y a dans notre cœur, ça peut avoir deux sources. Ou bien cette sagesse terrestre, ça vient de la terre, ça vient de l'homme, ça vient de la chair. Ou bien la sagesse d'en haut, c'est-à-dire ce que Dieu nous enseigne, nous montre, nous donne dans sa grâce. Donc la source, qu'est-ce qui va, si on peut dire, remplir, qu'est-ce qui va remplir mon cœur? Quelle va être la source de la sagesse qui va habiter dans mon cœur? Est-ce que c'est ce qui vient de la terre, ce qui vient de l'homme, ce qui vient de la chair? Ou est-ce que c'est ce qui descend de Dieu? Jacques ne va pas, si on peut dire, au-delà de... Dans un sens, il ne va pas au-delà de cela, mais il vient nous dire, je mets mon doigt sur ton cœur, regarde ce qu'il y a dans ton cœur, et surtout regarde d'où ça vient, ce qu'il y a dans ton cœur.
Ces trois caractères qui sont mentionnés ici, terrestre, animal, diabolique, sont en directe contradiction avec ce que la sagesse doit être. La sagesse en eau, c'est le contraire de terrestre. Il y a le ciel où le Seigneur habite, c'est dans nous, c'est de Dieu qui habite dans le ciel. Animal, c'est pas d'après l'Esprit Saint. Animal, c'est l'âme qui produit ces choses par ses, comme nous avons entendu, par ses désirs de notre chair. Et ce n'est pas d'après l'Esprit Saint qui veut nous garder. Et diabolique, c'est le contraire de Christ. Et c'est quand même solennel, diabolique. On ne pense pas, n'est-ce pas, que ces choses de querelles, etc., sont dans les yeux de Dieu diaboliques. Normalement, c'est plutôt Paul, l'apôtre Paul, qui regarde les choses de leur source, pour ainsi dire. Mais on a eu déjà dans le verset 6, n'est-ce pas, avec la langue, que Jacques dit, ces choses, si la langue n'est pas utilisée d'après la parole de Dieu, est enflammée par la gêne, par le caractère de ceux ou de lui pour qui la gêne était faite. C'était le diable. Et ici, cette sagesse, ce n'est pas seulement pas bien, n'est-ce pas? On s'excuse quelquefois, mais je n'étais pas sur une situation de foi élevée. Non, Jacques dit, c'est terrestre, c'est animal, c'est diabolique. Il faut avoir vraiment ce jugement sur ce que nous faisons d'après la parole. Si ce n'est pas la sagesse, c'est avec Jacques, comme avec le Seigneur, noir-blanc, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la sagesse en nous, c'est la sagesse diabolique. Et nous sommes souvent ceux qui nous excusent et disent ben, « j'ai pas su, j'ai pas vu ». Non, est-ce que nous sommes vraiment clairs avec cette sagesse? Dieu, nous avons entendu, c'est le Seigneur qui est notre sagesse maintenant. Alors nous avons toutes ressources pour être sages, pour avoir vraiment Christ comme jugement de toutes les choses que nous faisons ou que nous rejetons. Est-ce que c'est vraiment d'après la personne de notre Seigneur? Est-ce que ça glorifie la personne du Seigneur? Est-ce qu'il est dans ces choses? Est-ce que nous pouvons les faire avec le Seigneur, qui est la base de nos décisions? Ou est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me donne? Comment je me trouve avec cela? Le Seigneur a fait tout pour Dieu, son Père, et pour nous. Est-ce que lui est vraiment notre modèle aussi?
Nous ne manquons pas d'être frappés par les termes qu'emploie l'apôtre en écrivant, en parlant de cette sagesse humaine, terrestre. Il nous dit, n'est-ce pas, la chose suivante, sagesse terrestre, verset 15, sagesse terrestre, voilà son horizon. Son horizon, c'est la terre. Elle est terrestre, elle reste terrestre, bien sûr. Son horizon, c'est la terre. Est-ce que c'est notre horizon? Nous comprenons bien qu'il n'en est pas question. Mais nous pouvons, comme on l'a fait remarquer, nous pouvons manquer à un moment ou à un autre. Nous avons ces deux natures en nous, et bien sûr que la chair, elle n'a comme horizon que la terre. Elle peut avoir des prétentions, mais elle n'a comme horizon réel que la terre. La deuxième expression, animal. Ce qui l'anime, c'est la chair. Il n'y a que la chair dans l'incrédule. Et donc nous comprenons que pour l'incrédule, il ne peut pas en être autrement. Pour nous, quelle place tient la chair dans notre vie, dans notre marche? Est-ce que nous la laissons agir? Est-ce que nous la laissons réagir? Est-ce que nous la laissons s'exprimer? Ou est-ce que nous avons l'exercice qui convient à cet égard? Et la troisième point, c'est diabolique. C'est effrayant comme expression. Elle est diabolique. Nous comprenons bien que ce n'est pas possible pour un croyant d'avoir ce qualificatif, mais nous comprenons aussi que nous pouvons céder à un point ou à un autre, et en quelque sorte, comme on l'a fait ressortir pour l'apôtre Pierre, il a été dans les mains de l'ennemi dans ce moment si crucial pour la vie du Seigneur et pour cet apôtre. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être attentifs.
Le danger, donc, pour le croyant, et sans doute encore plus pour celui qui enseigne, c'est en effet de bien faire la part des choses entre la sagesse divine et la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine, en fait, a de bonnes choses quand elle est dans le bon cadre. Mais le problème, c'est que parfois, on ne se rend pas compte que les paroles qu'on pense être sages, ce ne sont pas, en effet, ce que Dieu veut. Et il y a donc déjà, dans ces versets que nous lisons, quelque chose qui nous montre ce qu'est déjà la sagesse divine. Elle doit être douce. Si dans la sagesse que nous utilisons, il n'y a pas la douceur, on peut déjà douter. Elle est douce, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas un esprit de querelle. Parfois, dans des entretiens de frères, on peut vite monter, mais la douceur, c'est la douceur qui doit nous montrer que c'est en tout cas quelque chose d'important qui nous montre que cela peut être la parole, la sagesse de Dieu. Combien de querelles n'avons-nous pas eues entre chrétiens ? C'est un mauvais signe. Dès qu'il y a des querelles, c'est un mauvais signe. J'aimerais lire un verset dans Proverbe 6. Proverbe 6. On peut déjà lire au verset 12. « Celui qui marche la perversité dans sa bouche est un homme de Bélial, un homme inique. » Verset 14, « Il a des pensées perverses dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il sème des querelles. » Verset 16, « L'Éternel est ces six choses. » Et puis, il y a au verset 18, « Le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre des frères. » Et donc, en voulant insister pour les droits, ce qu'on pense en tout cas être les droits de Dieu, eh bien, on peut oublier la douceur. Elle fait partie. Elle fait partie de ce que nous avons à manifester. Et à propos, on peut lire aussi encore un verset dans 2 Timothée 2, verset 25, à propos de la douceur. 2 Timothée 2, verset 24, « Il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants. » Même les opposants, il faut les enseigner avec douceur. Nous, on aurait plutôt tendance à élever le ton, à insister. Non, il faut garder cette douceur. Et puis, on a donc parlé que c'était une sagesse terrestre, animale et diabolique. Lisons un verset dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 22. Et Pierre, prenant à part le Seigneur, se mit à le reprendre, disant « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Va arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » On sait très bien que Pierre n'était pas quelqu'un qui était satanique, mais voilà, il avait des pensées que le Seigneur lui-même doit lui dire « Arrière de moi, Satan. » Et on l'a vu parce que ce sont des choses qui avaient rapport avec l'homme.
Notre mode de pensée humain est parfois très subtil. Et il y a ce danger de croire que le mode de pensée de Dieu correspond aux pensées humaines. Et parfois, nous pensons que Dieu pense comme les hommes. Dans les psaumes, il est même dit « Tu pensais que j'étais comme toi ». Mais ce n'est pas le cas. Et souvent, ou parfois, nous utilisons des logiques humaines en pensant que c'est la pensée de Dieu. Or, nous venons de voir dans ce paragraphe que non, le mode de pensée de l'homme et le mode de pensée de Dieu sont différents. Ce sont des sagesses différentes qui n'ont rien en commun. Et ici, il est dit « mais ». Donc le contraste est de nouveau établi au verset 17. « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. » Premièrement. Elle est pure. Elle est simple dans le sens unique. Elle n'est pas double. Ce ne sont pas avec des arrière-pensées. Et en Philippiens 4, là où il nous est parlé en effet d'une querelle, ensuite il nous est dit au verset 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et puis au verset 8, il dit au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes ces choses qui sont aimables, toutes ces choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous.
Nous avons vu donc la gravité de l'état qui peut s'emparer d'un croyant, même si probablement tout ne s'applique pas à un croyant. Est-ce que pour autant nous sommes livrés à nous-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de ressources? Mais bien sûr, le Seigneur dans la gloire où il se trouve est celui qui nous lave les pieds. Donc si nous avons contracté parce que nous sommes laissés influencer par le monde, ou nous ne sommes pas suffisamment jugés, nous avons toléré dans notre vie des choses qui ne sont pas pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur s'occupera de nous. Dans la gloire où il se trouve, il accomplit ses merveilleux services qui sont les siens, celui du lavage des pieds, combien nécessaire, c'est tout ce que nous contractons sur cette terre. Et deuxièmement, il accomplit ce service du sacrificateur qui nous porte sur ses épaules et sur son cœur. Et c'est ainsi qu'il pourra travailler dans nos cœurs, produire un retour sur nous-mêmes par son esprit, et nous amener à condamner et abandonner ce que jusque-là nous nous étions laissés aller à faire. Que le Seigneur nous donne d'avoir aussi cette vision et d'être attentif à ce que le Seigneur lui-même produit dans nos cœurs.
Il est temps de clôturer cette première réunion.